Bonjour, c'est Zoé de Louis. Devenir parent, c'est ouvrir la porte vers une nouvelle vie pleine de changements et vers un nouveau rythme qui est parfois compliqué à gérer. Comment continuer à sortir après la naissance de son enfant? Et comment trouver des lieux appropriés? Evian, l'eau parfaitement adaptée aux besoins d'hydratation des bébés qui soutient ce podcast, a recensé avec l'aide de jeunes parents les adresses idéales à Paris, Lyon et Marseille pour sortir avec ses enfants. Evian soutient les nouveaux parents dans leur mode de vie et leur approche de la parentalité. Un peu comme Fête des Gosses finalement. Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute.
Louis. Si vous êtes né dans les années 80, vous avez sûrement vu Madame Doubtfire. Le film avec Robbie Williams et Sally Field raconte comment un homme ayant perdu la garde de ses enfants se fait passer pour une respectable gouvernante anglaise dans le but de devenir leur nounou et de passer du temps avec eux. Le film s'ouvre sur cette scène.
Vous habitez là, madame ?
Oui, à mon grand regret. Où ?
Est-ce que vous savez qu'il est illégal d'avoir des animaux de ferme dans une zone résidentielle, madame ?
Même quand on en a épousé un.
C'est l'anniversaire du cadet de la famille et Daniel Hillard, le père, organise une fête surprise pour son fils avec des animaux de ferme. La fête tourne court à l'arrivée de la police et de la mère, Miranda. Et le père prononce cette phrase :
Party's over.
La fête est finie, mon vieux. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ce qu'on y voit, ce sont deux figures d'autorité qui s'opposent. D'un côté, un père présenté comme sympathique, léger, un parent cool en somme. Et une mère hystérique à qui incombe la responsabilité de faire respecter les règles. Une seconde nature chez elle, comme le dit le personnage de Robbie Williams. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit ? Est-ce que les mères sont programmées pour être le mauvais flic et le père le bon flic ? Car le stéréotype inverse existe aussi. La mère douceur, nourricière, qui ne lève jamais la voix, et le père dur, autoritaire, le fameux pater familias. Quand il s'agit d'autorité, peut-on vraiment regarder le monde avec des lunettes de genre ? Les représentations de l'autorité correspondent-elles à la manière dont les fonctions d'autorité s'exercent au sein des familles ? Aujourd'hui, il n'y a plus une famille, mais des familles. Selon l'INSEE en France, 9% des familles sont recomposées. Et 25% sont des familles monoparentales. Parmi ces dernières, 82% sont des familles mères-enfants. Ces mères, qui incarnent encore aux yeux de la société l'amour, le cocon, la douceur, doivent inventer une nouvelle forme de parentalité et donc d'autorité puisqu'elles sont les seules à la détenir. C'est la même chose pour les familles homoparentales, et on estime qu'environ 31 000 enfants y sont élevés, qui doivent inventer une autorité en dehors du genre. Tout ça pour dire que les fameux « je vais appeler ton père » ou « tu verras ça avec ta mère » sont chamboulés. Les modèles de famille se diversifient et pourtant les inégalités persistent. Alors la question que je me pose, c'est en 2024, qu'est-ce que notre genre implique dans la manière dont nous élevons nos enfants ? Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses.
Fête des Gosses !
Fête des Gosses !
Fête des Gosses.
Ouais, fête des gosses.
Fête des gosses.
Fête des gosses.
Qui est-ce qui décide à la maison ?
C'est mes parents.
Et c'est qui gronde le plus ? C'est papa ou c'est maman ?
C'est les deux.
Qui décide à la maison ?
Papa et maman.
C'est maman.
C'est ma mère, hein, forcément. La maître de la maison. C'est elle qui commande. La maîtresse qui... Qu'est-ce qu'on va manger ?
Est-ce que tu te fais plus gronder par ton père ou par ta mère ?
Mon père.
Papa.
Par qui est-ce que tu te fais gronder ?
Par vous deux.
Tu trouves que papa et maman écrivent beaucoup ?
Oui. Quand il y a quelqu'un qui est la bête ou la ronder.
Les enfants à qui j'ai demandé qui faisait autorité à la maison n'ont pas de réponse tranchée. Pour savoir comment elle se répartit au sein des familles, j'ai posé la question à Marie-Joseph Bertini, au téléphone dans cet épisode. Elle est professeure des universités, en sciences de l'information et de la communication à l'université Nice-Côte d'Azur et directrice du laboratoire de recherche interdisciplinaire Récits, culture et société. Elle travaille notamment sur les usages sociaux, culturels et politiques du genre et est l'autrice de « Le genre à l'épreuve des nouvelles parentalités », publiée en 2021 aux éditions RS.
Ce film, Madame Doubtfire, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que ce père insuffisant, pas assez autoritaire, il se grime en femme. Il se grime sous les traits d'une gouvernante austère, très autoritaire. Et ce faisant, il montre à sa femme qu'il est capable d'une autorité qu'il peut incarner sous le genre féminin, mais qu'il ne pouvait pas incarner sous le genre masculin. Ce qui est assez vertigineux quand on y pense. Donc le film est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît dans la manière où il interroge cette inversion des polarités. Il y a un autre film auquel je pense, c'est La Fureur de Vivre, avec James Dean, le film de Nicolas Ray, où on voit une scène qui, pour le coup, elle, est dans une inversion non acceptée des polarités. On voit à un moment donné l'acteur principal rentrer chez lui et voir son père qui met un tablier, qui met des gants MAPA et qui commence à faire la vaisselle. Et on voit le regard du personnage principal sur son père et le regard en même temps de l'époque sur cet homme qui déroge à la masculinité triomphante en incarnant finalement une charge domestique qui ne serait dévolue qu'aux femmes. Donc je pense que les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît et qu'aujourd'hui, il y a ce jeu de chaises musicales entre le père, la mère, l'autorité de l'un, l'autorité de l'autre. Et d'autre part, aujourd'hui, les termes de la loi introduisent l'idée du parent et non plus du père et de la mère. On avait entendu des cris d'orfraie parce que l'administration proposait parent 1 et parent 2 sur les documents officiels. On dit, mais comment ? Ça veut dire que le rôle de la mère et du père disparaît. Ce que questionne notre société, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le parent, c'est le parrince. C'est-à-dire, c'est la personne qui, quel que soit son genre, permet à l'enfant de grandir et qui lui procure des soins et qui s'occupe de lui et qui s'occupe de l'insérer dans un monde qui est en devenir. Donc, ne nous focalisons pas à la fois sur les familles classiques et puis d'autre part sur les familles hétéroparentales, parce qu'elles nous empêchent de voir ce qui est à l'œuvre dans la parentalité aujourd'hui, qui est véritablement travaillé par l'évolution des mentalités, par l'évolution des sociétés, et qui vient questionner aussi très fortement l'autorité.
De même qu'il n'y a plus une famille mais des familles, il n'y a pas une définition de l'autorité. D'une manière générale, l'autorité, c'est le pouvoir de commander, d'imposer l'obéissance. Mais l'autorité parentale, elle, est définie comme l'ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant et qui se traduisent de différentes manières. Veiller sur l'enfant, sa santé, son éducation, son patrimoine. Ici, ce qui nous intéresse, c'est à la fois ça et notre capacité à réagir quand Junior refuse de se mettre à table. La définition qu'en donne Marie-Joseph Bertini se situe au carrefour de ces deux préoccupations.
Toujours l'étymologie qui nous aide à comprendre d'où viennent les choses et où elles vont, auctoritas, qui veut dire faire grandir. Donc, il y a quelque chose de positif dans l'autorité. D'autant plus que l'autorité, elle diffère profondément du pouvoir, dans la mesure où le pouvoir impose la force. Alors que l'autorité, elle doit être reconnue, elle doit être acceptée, et elle doit être jugée légitime. Donc, l'autorité ne peut pas se décréter. On peut décréter le pouvoir et en abuser, mais on ne peut pas décréter l'autorité. Et j'ajouterais une chose, c'est que l'autorité en soi, elle ne suffit pas, elle ne suffit jamais. Il faut que l'autorité soit bonne, qu'elle soit juste. Autrement dit, il faut que l'autorité nécessite quelque chose d'autre qu'elle-même pour s'appliquer d'une manière qui est acceptable. Alors qu'est-ce que c'est qu'une autorité bonne et une autorité juste ? Vladimir Poutine et Joe Biden ne vont pas avoir la même définition de ce qu'est une autorité bonne ou juste. Et par le passé, on a été familiarisé avec des formes d'autorité qui nous semblent aujourd'hui ni bonnes ni justes. Je prends l'exemple de l'autorité du paterfamilias, qui est la clé de voûte du patriarcat. J'ajouterais qu'il existe une matrice masculine de l'autorité dans le cadre d'un système patriarcal. Et que cette matrice, cet ordre symbolique gouverné par le masculin, s'est illustré à de nombreuses occasions et continue de s'illustrer.
La notion de puissance paternelle qui confère toute autorité au père a disparu du Code civil en 1970. Et plus récemment, en 2014, à l'occasion du vote de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, ce même Code civil s'est aussi délesté de l'expression « en bon père de famille ». Mais cela ne veut pas dire que la société a immédiatement tout déconstruit. l'autorité exercée dans le cadre de la parentalité relève d'un système, celui de la famille. Et comme me l'a expliqué Marie-Joseph Bertini, cette autorité a été pensée très tôt comme asymétrique, c'est-à-dire qu'aux femmes revenaient le soin des enfants et les travaux domestiques, et aux hommes l'éducation, faire grandir l'enfant. On a donc eu très tôt une partition, le biologique, dévoué à la mère, et l'espace symbolique, celui de la reconnaissance sociale et publique, auquel le père était le seul à avoir accès.
Je prends un exemple plus symbolique, celui du nom du père. Aujourd'hui, 90% des familles et des femmes font le choix de donner le nom du père à l'enfant. Parce que précisément, elles continuent de penser que l'inscription dans le champ du social et du symbolique se fait par le père. Et de fait, elles renvoient la mère à quelque chose qui est de l'ordre de l'organique et du biologique. Et l'autre exemple que je prendrais, c'est la chape de plomb de la psychanalyse d'obédience française qui continue à faire peser très fortement cette idée selon laquelle le passage par l'autorité du père, le nom du père, etc., est fondamental pour résoudre le complexe d'Œdipe, par exemple. Donc, on voit que ce lien entre l'accès au monde symbolique et le masculin a imprégné très fort nos cultures et continue, à travers les exemples que je vous ai donnés, de les imprégner.
Malgré les évolutions dont on a déjà parlé, la question de l'importance de l'autorité paternelle ne cesse de revenir dans les débats. En France, au moment des émeutes qui ont suivi la mort du jeune Nahel Merzouk, tué par un policier le 27 juin 2023 pour un refus d'obtempérer, les politiques ont déploré le fait que les enfants, auteurs de violences urbaines, étaient des enfants sans père, et donc sans boussole. Les mères, souvent abandonnées par les pères et défavorisées, ont été accusées d'être incapables de tenir leur enfant. Ces femmes ont donc incarné, pour ces gens, l'échec de l'autorité. La violence des enfants a été présentée comme la conséquence de l'absence de la seule autorité valable, celle du père. Le vieux concept de pater familias continue donc d'infuser notre société, même s'il y a quand même un paradoxe. Nous sommes dans une société qui survalorise le rôle de la mère et en même temps qui leur dénie la capacité à avoir de l'autorité. Pourtant, les deux peuvent être liés. Par exemple, à la maison, c'est moi qui m'occupe le plus souvent d'Abel le soir, qui gère le dîner, le bain, le brossage des dents. Et en fin de journée, un enfant est fatigué et donc plus susceptible de faire des crises. Je me retrouve donc, mathématiquement, plus souvent dans le rôle du mauvais flic, celui qui doit sévir. Pas parce que j'aurai plus de points d'autorité dans ma poche, mais parce que je suis plus souvent amenée à l'exercer. C'est aussi le cas de Camilla.
Je m'appelle Camilla, je suis la maman de Emma et de Gabin. Emma, elle a 2 mois et Gabin, il a 2 ans et demi et je suis le mauvais flic à la maison. Premièrement, c'est vraiment organisationnel. Comme je suis infirmière libérale, j'ai des jours de repos en semaine en fait. Et mon conjoint, lui, il a des repos le week-end. Donc j'ai pas mal de temps avec les enfants sans mon coparent, quoi. Ce qui est super cool hein, en soi d'avoir des jours de repos avec ses enfants, mais j'ai aussi du coup toute la gestion du quotidien avec 2 enfants en bas âge. Et bien sûr, mon grand de 2 ans et demi sait en profiter. On va dire que je suis une mère très impliquée dans l'éducation de mon fils. Il ne regarde pas les écrans, ou en tout cas de façon très limitée. Je me mets la pression peut-être aussi à moi-même à faire en journée des activités, de l'inviter à lire. On habite à la campagne, donc on profite de faire des balades, de faire tout ça. Ce qui est super pour les enfants, mais qui peut être aussi fatigant pour moi. Forcément, on va dire que quand mon conjoint arrive et que moi, j'ai sévi, j'ai puni ou alors j'ai été impatiente parce que je suis fatiguée et du coup j'ai eu tendance à crier durant la journée. Mon conjoint, il arrive un peu comme le sauveur. Mon Gabin saute dans les bras de son papa en disant « Papa !» et moi, je m'auto-juge en disant « Lolo, mais quelle mère t'as été ! T'as crié aujourd'hui, c'est vraiment pas la maman que t'as envie d'être, quoi, mais je crois qu'on fait avec les moyens qu'on a. » Ce que j'ai mis en place pour pouvoir pallier à ça, déjà, c'est mon conjoint qui m'a quand même invité plus à prendre du temps pour moi. Donc, je vais à l'équitation 2 heures par semaine le mardi. Et j'arrive du coup à avoir du temps pour moi, de qualité et sans culpabilité. Et ça, c'est vrai que du coup, forcément, ça joue bizarrement sur l'autorité que j'ai envers mon, mes enfants. Bon, ma petite de 2 mois, j'ai pas encore besoin de faire de l'autorité sur elle, mais mon grand de 2 ans et demi, je sens quand même que j'ai eu ce moment pour moi, et donc j'arrive quand même à assouvir, entre guillemets, le respect en ayant crié ou en m'étant impatienté, alors qu'en fait, voilà, j'ai bien conscience qu'il a 2 ans et demi et qu'à 2 ans et demi, quand on voit une porte d'entrée, on s'y engouffre. Et voilà, quand il sent que je suis fatiguée de ma journée ou que je suis impatiente ou que, bah voilà, forcément, ça finit dans les cris. Alors que là, j'ai du temps de qualité pour moi. Et du coup, j'arrive à obtenir ce que j'aimerais obtenir sans passer par les cris ou par les pleurs ou par me mettre en colère. Ou, voilà. Et forcément, je me sens moins dévalorisée en tant que mère, en réussissant à être autoritaire sans crier et sans m'énerver, quoi.
Faites des gosses.
Je suis malin, tu es bête. Je suis grand, tu es petite. J'ai raison, tu as tort. Et c'est comme ça, et t'y peux rien.
Je parle pas, je parle comme ça.
Je te conseille d'être sage et de faire ce que je vais te dire.
Oh, dis donc, elle...
Faites des gosses.
T'as dit un gros mot, tu seras puni.
Dans votre chambre. Et que ça sonne!
Faites des gosses!
Comme dans la famille de Camilla, les tâches parentales, c'est-à-dire le dîner, le bain, faire jouer les enfants, les habiller, les mettre au lit, sont assurées en majorité par les femmes. La dernière étude de l'INSEE sur le sujet date de 2010 et révélait que les femmes les assurent à 71%. Mais cette notion ne prend pas en compte ce que l'on pourrait appeler la charge éducative, qui traditionnellement incombait au fameux pater familias. Quelles règles appliquer à la maison? Quel type d'éducation donner à ses enfants? Quand sévir? Comment gérer les conflits et les punitions? Dans son couple, c'est Mélina qui a endossé cette charge. Ce qui fait qu'elle n'est ni le bon flic ni le mauvais flic, mais les deux. Elle incarne l'autorité parce que c'est elle qui a pris en charge l'éducation des enfants.
Moi, je fais les deux au final. Et je fais les deux depuis que mon aîné est devenu un peu grand et que voilà, à partir de 2 ans et demi, c'est plus un bébé qu'il est facile de gérer. C'est vraiment le moment où on a dû un peu changer de posture parentale. Et on s'est retrouvé avec des crises et tout, et où en fait, je me suis retrouvée à me dire, mais j'ai pas du tout envie de passer des années à juste hurler sur mon aîné pour des broutilles. Donc c'est là où j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à écouter des podcasts, je me suis même acheté une sorte d'accompagnement parental. Enfin, en gros, c'est comment gérer le terrible tout, et puis à partir de 2 ans, quoi, en gros, comment gérer tout ça. Et c'était très court, hein, c'était juste des podcasts et tout, mais j'ai tout suivi et j'ai appliqué toutes ces nouvelles règles éducatives et un peu tout ce cadre qu'il fallait reposer. Et j'ai juste transmis rapidement à mon mari les points phares, les points importants, on va dire, mais je ne lui ai pas transmis l'intégralité de la formation. Ça aurait été trop long et puis vraiment pas envie. Et du coup, aujourd'hui, je sais quelles sont les règles importantes et qui méritent d'être punies ou en tout cas d'avoir des conséquences. Et je sais quels sont les autres moments où je peux le laisser avoir un petit brin de liberté là-dessus. Et c'est pas forcément une règle qui définit la maison. Mais je me retrouve quand même à faire le gentil flic. Donc je console et tout. Et je fais aussi le mauvais flic, enfin celle qui rappelle les règles, parce que j'ai l'impression que c'est y a que moi qui les connais. Et peut-être mon aîné. Et c'est plutôt ça, en fait. J'ai tellement cette espèce de charge éducative où je suis toujours à dès qu'il y a un souci, me renseigner, lire des choses, aller voir, enfin voilà, avoir des infos, quoi, pour ne pas rester dans la situation, alors que mon mari va pas du tout avoir ce réflexe-là. Vraiment pas. Après, il est content quand je lui transmets l'info, mais ça lui viendrait pas de lui-même. Et moi, évidemment, il y a des infos que j'oublie de donner ou que, enfin, juste, je suis pas sa professeure en éducation, donc... Donc, eh ben, cette charge-là, c'est plutôt de mon côté. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on change de posture parentale, qu'on devienne des parents qui éduquent, qui guident, et non juste des parents qui sont là pour faire les soins et laisser libre cours à la liberté de l'enfant. Et ce changement de posture-là, c'est vraiment moi qui l'ai inculqué, enfin voilà, qui l'ai apprise à mon mari au moment où on en avait vraiment besoin, quoi.
Marie-Joseph Bertigny me l'a confirmé, l'évolution des mentalités a fait émerger 2 polarités inversées dans les couples hétérosexuels. On a d'un côté les nouveaux pères, qui sortent de leur rôle de flic, qui écoutent, qui tâchent d'être une oreille attentive et rassurante pour leurs enfants, qui manifestent un amour qu'un pater familias n'était pas autorisé à exprimer. Et d'un autre côté, on a un durcissement des mères, dont la charge ne s'allège pas et qui se retrouve donc à incarner davantage l'autorité. C'est donc une transformation des incarnations genrées de l'autorité dans ces familles. Et d'ailleurs, une troisième voie est aussi possible, basée sur la coopération. Talita et son mari ont donc par exemple établi des règles pour que leurs enfants les perçoivent tous les deux comme des figures d'autorité équivalentes.
La règle numéro une chez nous, c'est celui qui punit, entre guillemets, c'est celui qui console. Nous, l'idée, c'est que si l'un des deux prend la décision de punir nos enfants, eh bien, une fois que la tempête est passée, que la punition est passée et terminée, alors c'est l'adulte qui a puni qui va voir l'enfant pour le prendre dans ses bras, lui expliquer pourquoi on a réagi comme ça et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la prochaine fois. Très souvent, d'ailleurs, on sent, notamment notre garçon, qui est un petit garçon qui est très tactile, lui, il a toujours besoin d'un câlin. C'est comme pour dire, ça y est, la dispute est terminée, on en a discuté, on se fait un câlin. Et c'est très souvent que ça lui permet en fait de redescendre et on le fait tous les deux. Après, c'est sûr que on doit remontrer notre solidarité entre adultes assez souvent parce que quand c'est l'un des deux qui dispute et pas l'autre, très souvent, nos enfants vont avoir tendance à appeler l'autre parent. Hein. Donc, par exemple, moi, je dispute mon fils, il va réclamer son père et inversement. Et là aussi, on essaye vraiment de garder notre règle. Celui qui punit, c'est celui qui console.
Selon Marie-Joseph Bertini, le cas de Talita et son mari n'est pas une exception. De plus en plus, le genre des parents disparaît derrière les droits et les devoirs parentaux. Les travaux du sociologue François de Singly le montrent. À société comparable, la multiplication des familles et la disparition de la notion de parenté au profit de celle de parentalité fonctionnent comme un égalisateur des sexes qui remet tout sur la table. Depuis que les chaînes de radio s'intéressent à l'éducation des enfants, que les pédiatres s'accrochent sur le temps d'écran à accorder à sa progéniture et que le développement de l'enfant a pris une place aussi importante que l'épanouissement au travail dans notre société, la répartition des rôles bouge dans les familles.
Ça veut dire que ce qui est interrogé ici, c'est la possibilité d'une parentalité qui ne soit pas sexuée ou genrée. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est difficile pour nous à penser, parce que la famille, jusqu'à présent, dans nos représentations, s'incarne dans deux rôles sexués différents, mais ça nous oblige à penser ce que signifie qu'élever un enfant et ce que signifie de faire des enfants. Ce qui est à l'œuvre là, c'est véritablement quelque chose qui nous oblige, oui, à dépasser nos cadres et à penser les choses différemment. On commence à peine à cet endroit-là. De la même façon, pensons aux familles recomposées, où en plus du rôle classique de la mère et du père, apparaît la figure de la belle-mère, la figure du beau-père, la manière dont les grands-parents ici prennent position dans cet arc parental. Et ce terme de parentalité qu'on utilise aujourd'hui, c'est un terme qui montre l'évolution et qui montre que la parentalité indique qu'on ne pense plus la parenté de la même façon. Et dans la parentalité, il y a ce questionnement qui concerne la symétrie originelle entre les mères et les pères, entre l'enfant et le parent, et qui remet tout ça sur la table pour essayer de recomposer quelque chose de différent.
Quelque chose me dérange ici. Quand on parle de multiplication des normes, d'une évolution des relations parents-enfants au-delà du genre, j'ai l'impression qu'on fait comme si les mécanismes de domination masculine, à l'œuvre dans à peu près tous les autres domaines, ne s'appliquaient plus à la façon dont s'exerce l'autorité dans les familles. Comme si l'autorité, au sein de la famille, échappait à ces systèmes de domination. Et c'est là que Marie-Joseph Bertini m'a parlé du pouvoir et de la frontière parfois ténue avec la notion d'autorité.
La domination masculine, elle continue d'être à l'œuvre. Le patriarcat continue de résister. Mais justement, c'est moins sous la forme de l'autorité que du pouvoir. Ce n'est pas à travers l'autorité que la domination masculine continue d'imprégner les familles, c'est à travers le pouvoir. et en particulier le pouvoir d'exercer une force, d'exercer une contrainte sur les femmes, une contrainte sur les enfants. Donc il faut décorréler totalement la question de l'autorité de la question du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est une bonne manière de montrer que le fait que l'autorité n'a plus de genre ou tend à ne plus avoir de genre ne doit pas nous laisser penser que la domination masculine a disparu. Pas du tout. Pas du tout. Et on le voit avec tous les cas de féminicide, on le voit avec tous les problèmes qui sont posés au sein des familles où cette domination s'exerce de manière violente ou pas. Ça peut être aussi avec des violences psychologiques, ça peut être avec des comportements qui consistent à dénigrer la mère, les femmes, etc. Non, non, ça ne veut pas dire du tout la fin de la domination masculine, hélas. Trois fois hélas.
Où est la frontière, justement, entre autorité et pouvoir ? Est-ce qu'un père qui vient sévir quand la mère ne s'en sort plus exerce un pouvoir ou une autorité plus ferme ? Et est-ce qu'en tant que parent, on n'est pas obligé parfois d'user du pouvoir que nous confère la parentalité ?
La frontière, elle est dans la souffrance. C'est-à-dire que l'autorité ne doit pas faire souffrir. Elle doit permettre à chacun de trouver sa place. C'est le paradoxe de l'autorité, c'est-à-dire qu'il faut imposer une certaine contrainte, juste et bonne, c'est pour ça que j'ai pris le soin de commencer par là, imposer une contrainte juste et bonne pour permettre à l'enfant de se libérer, de libérer toutes ses potentialités et de s'épanouir. Autrement dit, l'autorité nous montre que la contrainte, elle est épanouissante, elle est un gage d'épanouissement et qu'elle ne doit pas être pensée comme quelque chose qui bride pour brider, mais quelque chose qui bride pour ouvrir l'enfant à autre chose que lui-même, c'est-à-dire pour lui permettre de grandir et de devenir. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'autorité ne peut pas faire souffrir. Pour faire souffrir, il faut qu'elle s'appuie sur le pouvoir. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur une force qui va s'exercer pour imposer la légitimité de l'autorité. Donc à cet endroit-là, je crois que la douleur, la souffrance, c'est quelque chose qui permet de savoir où est la frontière. Lorsqu'on dit à un enfant « va faire tes devoirs », on n'exerce pas un pouvoir sur lui, on exerce une autorité. Lorsque l'enfant ne veut pas faire ses devoirs et que on le frappe, on exerce un pouvoir sur lui. Parce qu'on n'a pas besoin, justement, c'est une autorité qui n'arrive pas à s'exercer, c'est une autorité qui n'est pas jugée suffisamment légitime et qui fait qu'il faut que la sanction physique arrive, c'est-à-dire que le pouvoir s'exprime aussi. Donc, il faut bien décorréler les deux. Mais pour le coup, on peut se poser la question du pouvoir au sein des familles. C'est-à-dire, est-ce que tout pouvoir est forcément illégitime ? Est-ce que tout pouvoir renvoie forcément à quelque chose de négatif, à quelque chose qui relèverait de la domination ? Ou est-ce que le pouvoir, à partir du moment où il est exercé de manière limitée, raisonnée, peut aussi être positif ? Après tout, quand on punit un enfant, c'est un pouvoir. Quand on dit à un enfant « tu ne sortiras pas pendant une semaine », c'est un pouvoir. C'est un pouvoir pour asseoir son autorité. Mais c'est un pouvoir qui est acceptable parce qu'il se fait dans les limites du respect de l'autre, du respect de l'enfant, et qui ne contrevient pas ni à son intégrité physique, ni à son intégrité mentale.
Ce qui nous amène à cette question. Est-ce qu'il faut s'accrocher pour coller à l'idée que l'on se fait d'un parent qui a de l'autorité ? L'enfant obéit au doigt et à l'œil, il ne bronche pas et il lit J'aime lire le soir ? Ou est-ce qu'il faut inventer autre chose ?
Après tout, l'autorité, c'est un modèle qu'on a utilisé pour assurer la transmission, l'ordre, l'équilibre social, culturel et politique. Et ça pose d'autres questions, et notamment une autre question, c'est par quoi remplacer l'autorité ? C'est-à-dire comment organiser nos sociétés, non plus sur l'asymétrie, en un seul mot, la hiérarchisation des formes de domination, mais comment inventer, mobiliser des modèles qui ne reposent pas là-dessus et qui nous permettraient d'aller vers des formes d'autorité non dominatrices, non discriminantes, qui nous obligeraient à penser autrement le rapport à l'autre. Et c'est un beau défi et nos sociétés sont des sociétés qui sont profondément questionnées par ça. Mais je pense aussi à une autre raison d'espérer que je puisse dans une considération du philosophe français Gilles Deleuze, qui nous dit que le milieu familial, quel qu'il soit, ne constitue jamais un milieu fermé sur lui-même, quel qu'il soit. Mais c'est toujours un milieu qui est ouvert sur un champ social qui est lui-même en devenir. Et donc, la famille, elle questionne la société, mais elles sont aussi questionnées par la société. Et dans cet aller-retour, il y a des raisons d'espérer.
L'éducation positive, qu'on a beaucoup questionnée ici, est un exemple d'autorité plus horizontale. Est-ce que c'est un modèle durable ? On ne sait pas encore très bien. Mais peut-être qu'on pourrait simplement la considérer comme une étape dans la recherche tâtonnante de quelque chose d'autre, de nouvelles manières de faire famille et d'incarner l'autorité.
La parentalité, elle est toujours en devenir. Ce qui est problématique, c'est une parentalité figée, comme le cas du pater familias, mais une parentalité qui se remet en question, une parentalité qui essaie de forger de nouveaux modèles, bien c'est quelque chose qui est éminemment positif, et il faut encourager quelque chose qui passe par des errements, par des difficultés à harmoniser et à trouver la bonne solution, mais en même temps, on est sur la bonne voie, parce qu'on est sur ce devenir dont parle Deleuze, qui est le devenir parent, le devenir adulte, et finalement, la manière que nous avons, tous ensemble, dans la société, de nous élever les uns les autres.
Vous venez d'écouter Fête des Gosses, un podcast produit par Louis Média. Cet épisode a été réalisé par Anna Buis, la musique est de Jean Thévenin. Si les questions posées par cet épisode vous ont intéressé, je vous suggère d'écouter le double épisode de Fête des Gosses consacré à l'éducation positive. Si vous avez des questions ou des remarques, ou si vous souhaitez simplement réagir à l'épisode, écrivez-nous à hello@louismedia.com. À bientôt.
The Claude 3 model family from Anthropic is your one-stop shop for enterprise AI. With models at every point on the price-performance curve, you no longer have to make trade-offs between intelligence, speed, and cost. Claude 3 Opus sets new industry benchmarks for intelligence, Sonnet strikes the perfect balance between skills and speed, and Haiku is the fastest and lowest-cost model on the market, perfectly designed for high-volume, high-speed use cases. Join the thousands of enterprises who trust Anthropic to keep them at the frontier. Visit anthropic.com/Claude today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.